Vous écoutez RFI, Radio France Internationale. Il est 6h30 à Paris, 5h30 en temps universel. RFI Matin, l'actualité africaine avec Édouard Dupénoat. Bonjour Édouard.
Bonjour, il a supervisé lui-même le transfert de plusieurs millions de dollars à l'équipe de Nicolas Sarkozy. Pour sa campagne présidentielle, et RFI a pu échanger avec lui, Saïf al-Islam Kadhafi, le fils de l'ancien dirigeant libyen. Par trois fois, le clan Sarkozy aurait tenté aussi de faire infléchir son témoignage, et c'est à la une de ce journal, bien sûr. Les forces françaises basées au Sénégal auront levé le camp d'ici au mois de septembre. Le calendrier de retrait se précise après une rencontre entre galonnés des deux pays. La suspension de Canal 3 TV annulée au Niger. La garde à vue levée, aussi pour son rédacteur en chef. Olivier Bocco devant la cour de répression béninoise des infractions terroristes. Cet ex-bras droit du président Talon, membre du tout premier cercle du chef de l'État, comparaît aujourd'hui avec cinq autres accusés. Une parure orange et bleue pour Samuel Eto'o, une couronne sur la tête, bronca au Cameroun. Après que le patron de la FECAFOOT se voit honoré d'un titre nobiliaire dans le nord-ouest du pays, une distinction si haute que seul le président Paul Biya peut s'en prévaloir. RFI vous révèle donc ce matin le témoignage exclusif de Saïf al-Islam Kadhafi dans l'affaire qui vise en ce moment l'ancien président français Nicolas Sarkozy et plusieurs ex-ministres, celle du financement libyen suspecté de sa campagne présidentielle de 2007. Le fils de Muammar Kadhafi affirme avoir lui-même supervisé la transmission de 5 millions de dollars en espèces à l'entourage de l'ancien chef de l'État. Et il assure aussi que le clan de Nicolas Sarkozy l'a approché à trois reprises ces quatre dernières années pour qu'il modifie la déposition qu'il a faite auprès des juges français dans cette affaire. Tout cela dans un entretien, un échange qu'il a accordé par écrit à Ouda Ibrahim.
Selon Saïf al-Islam, la première demande pour qu'il modifie son témoignage concernant Nicolas Sarkozy a été formulée en 2021 par l'intermédiaire de Sohal Badri, consultante et communicante à Paris. On lui aurait, affirme-t-il, proposé de nier tout ce qui se dit d'un soutien libyen de Sarkozy pour les élections. En échange de quoi, les procédures qui le visent devant la CPI auraient été arrêtées. Un nouvel émissaire de Nicolas Sarkozy, affirme Saïf al-Islam, approche sa famille fin 2022 en s'adressant cette fois-ci à Hannibal Kadhafi, son jeune frère, emprisonné depuis 2015 au Liban. L'intermédiaire s'appelle alors, selon lui, Noël Dubus, par ailleurs cité dans ce dossier. Ce dernier, précise le fils du colonel Kadhafi, se serait rendu à Beyrouth et aurait exercé des pressions sur Hannibal, lui assurant sa libération si Saïf al-Islam changeait son témoignage en faveur de Sarkozy. Saïf al-Islam affirme qu'une troisième tentative à une date ultérieure non précisée a été effectuée par l'intermédiaire d'un Français d'origine arabe dont il n'a pas voulu révéler l'identité. Le fils du guide libyen soutient qu'il a catégoriquement refusé de donner suite à toutes ces demandes.
Du côté de Nicolas Sarkozy, on estime que ces accusations n'ont aucun fondement et qu'elles ne sont qu'une opportunité de circonstance alors que vient justement de s'ouvrir le procès de l'ancien président. Maître Christophe Ingrin est l'un des avocats de Nicolas Sarkozy.
Au regard du dossier qui fait l'objet actuellement d'une audience qui va durer 4 mois, il me semble que ces déclarations sont des déclarations non seulement fantaisistes, mais également très opportunistes, qui tombent alors que le procès vient de commencer. Elles émanent de quelqu'un qui, depuis le début de l'enquête, depuis 10 ans, avance des accusations qui ne sont étayées par rien, qui ne sont confirmées par rien. Depuis 10 ans, il promet de remettre des documents qui confirmerait ces accusations. À ce jour, rien n'a jamais été remis à la procédure. Donc, pour moi, ces accusations, elles relèvent simplement de rodomontades fantaisistes et n'ont aucune importance.
Et vous lisez cette enquête et cet entretien en longueur mené par Ouda Ibrahim sur notre site, le www.rfi.fr.
RFI.
Un peu plus d'un mois après que le Sénégal a demandé le retrait des forces militaires françaises sur son territoire, le calendrier précis commence à se resserrer. Le général français Pascal Yanni, qui dirige le commandement Afrique, s'est rendu à Dakar la semaine dernière pour rencontrer notamment son homologue et discuter du retrait des troupes. Il n'y aura plus de base française permanente au Sénégal, visiblement d'ici 8 mois, Léa-Lisa Westerhoff.
Le calendrier proposé par la France, c'est le mois de septembre pour remettre la principale et dernière base militaire française aux forces armées sénégalaises. Rien n'est arrêté encore, mais voilà ce qui ressort d'une visite de courtoisie du général français Pascal Yanni à la tête du commandement pour l'Afrique au chef d'état-major sénégalais, le général Mbaye Cissé, en fin de semaine dernière. Pour l'heure, un peu plus de 200 militaires et leurs familles résident au camp Jey, la base militaire du centre-ville, et une vingtaine sur la base de Rufisque, en banlieue de Dakar. Les mouvements de mutation se font à l'été au sein de l'armée, confirme une source militaire française. Pour des raisons familiales et logistiques, septembre est donc l'échéance logique pour la fermeture de ces deux bases. Restent ensuite trois autres emprises, deux près du port et une dans la base navale sénégalaise, toutes les trois vides et fermées depuis avril et juin 2024, affirme l'armée française. La prochaine étape devrait être la reprise de discussions techniques sur la suite. Aucune date n'a encore été fixée, mais des deux côtés, on se dit confiant. Le principal enjeu étant désormais de décider si et sous quelle forme se poursuivra la coopération militaire entre la France et le Sénégal. Léa Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
Un couvre-feu nocturne qui doit durer un mois a débuté hier soir dans deux villes du sud de la République démocratique du Congo. Et cela en raison de préoccupations sécuritaires dans leurs agglomérations. C'est ce que dit le gouverneur de la province. La mesure concerne les villes de Lubumbashi et de Likasi. Elle s'applique chaque jour, chaque nuit, entre minuit et 5 heures. Et elle a été prise au vu de la situation préoccupante d'insécurité dans les agglomérations, selon le document signé par les autorités du Haut-Katanga. Le bilan de l'explosion d'un camion-citerne samedi dans le centre du Nigeria s'élève désormais à 98 morts, disent les secours. 69 blessés, et toujours selon Abdoulaye Baba Ara, directeur général des agences des secours pour l'État du Niger. Dans la matinée de samedi, un camion-citerne transportant 60 000 litres d'essence a eu un accident au niveau du carrefour de Diko dans l'État du Niger sur la route entre Abuja et Kaduna. La foule s'est alors rassemblée près du camion pour récupérer l'essence qui était en train de se déverser lorsque la remorque a explosé. Machine arrière au Niger proprement dit et petit soulagement pour les défenseurs de la liberté de la presse. La chaîne Canal 3 TV n'est finalement plus suspendue. Son rédacteur en chef est sorti de garde à vue après avoir passé deux jours derrière les barreaux. Le ministère de la Communication de la Transition a simplement annoncé être revenu sur ces mesures prononcées juste avant le week-end. Esdras Dikoumana, elles avaient fait bondir les organisations de liberté de la presse.
La mesure était tombée comme un couperet vendredi dernier. Le ministre de la Communication avait suspendu Canal 3 TV, une importante chaîne de télévision privée nigérienne, pour un mois et son rédacteur en chef Seyni Amadou. Celui-ci avait ensuite été placé en garde à vue dès le lendemain. Motif, la chaîne avait diffusé comme elle le fait chaque année sans aucun problème jusqu'ici, un baromètre qui classe les ministres en fonction de leur performance. Mais la pilule n'était pas passée cette fois puisque le ministre Sidi Railou Mohamed avait décidé de sévir. RSE va alors monter au créneau en appelant plus tôt ce lundi à la libération immédiate du journaliste et en dénonçant les suspensions illégales de Canal 3 TV et de son rédacteur en chef. Deux organisations nigériennes de la presse vont également dénoncer un peu plus tard des sanctions qualifiées de non fondées avant de défendre le droit à la critique de l'action politique par les médias. Que s'est-il passé en coulisses? Un communiqué du ministre de la Communication lié à la télévision officielle lundi soir a annoncé la levée des sanctions contre la télé privée et son rédacteur en chef qui a été libéré dans la foulée selon le directeur général de Canal 3 TV cité par l'AFP.
Le gouvernement centrafricain confirme l'arrestation d'un chef rebelle au Cameroun, Armel Sayo. Interpellé il y a 4 jours à l'aéroport de Douala et en détention depuis cette date, il est suspecté de très nombreuses violations des droits humains. Et si l'accord de paix de Khartoum signé il y a 6 ans lui avait permis de redevenir un temps ministre, il avait ensuite repris les armes et fondé un nouveau groupe armé, la Coalition militaire de salut du peuple et de redressement. Il avait récemment menacé de renverser le régime politique de Bangui. Le porte-parole du gouvernement centrafricain assure que des démarches d'extradition sont en cours. Le procès qui s'ouvre aujourd'hui devant la criette du Bénin aurait semblé totalement inimaginable aux observateurs de la vie politique il y a encore quelques mois. 6 personnes doivent comparaître devant cette cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, notamment l'ancien ministre des Sports, Oswald Omeki, mais aussi et surtout Olivier Boko, homme d'affaires jugé proche parmi les proches du président Talon, au point où certains d'ailleurs l'appelaient le vice-président. Tout cela jusque fin septembre, en tout cas, puisque les voilà désormais accusés d'avoir fomenté un putsch, Jean-Luc Aplogan.
Ce procès est un épisode totalement inattendu pour les Béninois, vu ce que représentait Olivier Bocco dans le dispositif Talon. Il était surnommé l'alter ego ou parfois vice-président. Coup de tonnerre le 24 septembre, Cotonou se réveille avec la nouvelle de son arrestation. Le lendemain, la justice l'accuse d'avoir planifié un coup d'État. 4 mois après, au terme de l'instruction et des recours infructueux de ses avocats, il est jugé avec Oswald Roumeki, ancien ministre des Sports, et 4 autres prévenu pour complot contre l'autorité de l'État, corruption d'agents publics et faux certificats. Selon le procureur spécial de la Criette, le chef de la garde présidentielle avait été approché par les mises en cause pour l'exécution du complot. L'officier est libre. Toujours selon lui, la police a saisi au domicile de l'ancien ministre des Sports 1,5 milliard de francs CFA le jour de son arrestation. Un avocat du collectif a déclaré il y a quelques jours que Olivier Bocco est impatient de faire face à ses juges et il a ajouté, le dossier se défend tout seul. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
La superstar égyptienne Mo Salah va-t-elle réaliser la passe de 7 avec Liverpool en Ligue des Champions? De tout cela, on parle dans une minute avec Antoine Grenier dans le Journal des Sports. Nous, c'est une autre gloire du foot qui nous intéresse. Disons ex-gloire, puisque Samuel Eto'o a raccroché les crampons et qu'il a pris la tête de la Fédération Camerounaise du ballon rond. La semaine dernière, il est apparu en vidéo et en image sur les réseaux sociaux, tout en majesté, alors qu'il recevait un titre très honorifique de la part d'un chef traditionnel de la région camerounaise du Nord-Ouest. Sauf que la publication de ces images a entraîné dans la foulée une très vive controverse. La confrérie des chefs du Nord-Ouest s'est indignée de cette récompense accordée à l'ancien attaquant barcelonais. Un titre d'une telle noblesse qu'il est réservé, en théorie, au président Paul Biya. Polycarpe Samba remonte le fil.
Les photos et vidéos d'un Samuel Eto'o souriant et rayonnant avec ses nouveaux attributs de notabilité avaient à peine commencé à circuler sur les réseaux sociaux qu'un communiqué de la House of Chief entendait la confrérie des chefs traditionnels du Nord-Ouest est venu doucher les réjouissances qui allaient bon cours chez les fans de l'ancienne star des Lions Indomptables. Le communiqué signé du fond Yakoum Kevin Tevin au nom de tous les chefs du Nord-Ouest qui croient savoir que Samuel Eto'o a été élevé au rang de fond des fonds, en français le chef des chefs, indexe d'abord un procédé de désignation non consensuelle, une violation des artefacts traditionnels et qualifie cet acte de nul et non avenu. De plus, le communiqué souligne que seul le président Paul Biya est attributaire du titre de Fon de Fon, plus haute distinction honorifique dans la noblesse traditionnelle du Nord-Ouest. Confronté à cette polémique, le Fon Cochin, à l'initiative de l'attribution du titre à Samuel Eto'o, a dû apporter quelques précisions à celle-ci. Premièrement, affirmait-il lui aussi, la distinction de Fon de Fon est exclusive au président Paul Biya. Deuxièmement, le titre qu'il a bien voulu décerner à l'ancien attaquant star du FC Barcelone ne l'est qu'au titre de son village et non au nom de toutes les chefferies du Nord-Ouest. Enfin, explicite-t-il encore, Samuel Eto'o n'est autre que son messager. Tout ne serait ainsi finalement qu'une question d'interprétation. Polycarpe Samba, Yaoundé, RFI.
Yaoundé et à Douala, il est 6h43, même heure à Paris. RFI Matin continue avec Arnaud Pontus.
Merci à vous Edouard Dupénoit et à tout à l'heure. RFI Matin, prochain journal dans 17 minutes maintenant. Et au